Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question des pubs islamiques qui font l'objet d'une polémique, de la liberté de conscience, de l'euthanasie qui ne fait pas l'unanimité dans le monde médiatique et je terminerai, mesdames et messieurs, par les bonnes nouvelles du jour. Débutons par cet article qui est intitulé « Londres, des publicités gloire à Allah sur les bus font polémique ». Eh oui, mesdames et messieurs, elles font polémique. C'est ce que nous dit le Figaro. Une ONG islamique va afficher une publicité Subhanallah sur 640 bus rouges pendant le Ramadan. Des chrétiens dénoncent un deux poids deux mesures alors qu'une publicité anglicane a été proscrite au moment de Noël. C'est ce qu'affirme le Figaro, mesdames et messieurs. Et je poursuis. Subhanallah, gloire à Allah, ces mots seront affichés pendant deux mois sur les fameux bus rouges londoniens, une campagne de publicité lancée par la branche londonienne de l'association Islamic Relief. À partir du 23 mai, la publicité sera présentée sur 640 bus de Londres, mais aussi de Birmingham, Manchester, Leicester et Bradford. Cette campagne prend une résonance particulière alors que Sadiq Khan vient de devenir le premier maire musulman de Londres. Imran Madan, le directeur de la branche britannique du Secours islamique, en explique les raisons dans The Independent. Cette campagne a pour but de changer le climat ambiant autour de l'aide internationale et de la communauté musulmane dans ce pays. Pour le porte-parole de l'association, Martin Cunningham, il est important de souligner que le Secours islamique n'est pas une association prosélyte. Nous sommes inspirés par la foi, mais notre argent va aux gens dans le besoin, des gens de toutes les religions, a-t-il affirmé. Et donc, si on se fie au Figaro, qui nous rapporte l'information, il y a des publicités qui sont sur les bus et ça fait réagir des gens. Qui sont ceux qui réagissent? Ben, ce que le Figaro nous rapporte, ce sont des chrétiens qui réagissent. Voici ce qu'il nous dit. En effet, pendant la période de Noël, une publicité de l'Église d'Angleterre qui faisait la promotion d'un site Internet cherchant à inciter les gens à prier, Just Pray, avait été proscrite de plusieurs cinémas. On y voyait l'archevêque de Canterbury réciter le Notre Père avec plusieurs autres fidèles. Le spot publicitaire devait être projeté avant le film Star Wars, mais il a été bloqué par la Digital Cinema Media, l'agence qui contrôle la publicité dans les plus grandes salles de cinéma du pays. Si nous autorisons cette publicité en faveur de l'islam, nous devons aux chrétiens plus de liberté pour s'exprimer, a affirmé Andrea William, directrice de l'association Christian Concern. Dans le Daily Mail, Simon Calvert, directeur de l'Institut chrétien, affirme quant à lui que cette publicité indique le début d'une nouvelle ère d'expression de la foi chrétienne qui est devenue persona non grata. Et persona non grata, ça veut dire qu'il n'est pas bienvenu. Voyez-vous, mesdames et messieurs, ce qui se passe là à Londres, ça confirme ce que moi j'ai toujours dit. Si on commence à donner ou à enlever des droits aux musulmans, eh bien, il va falloir le faire avec les chrétiens. Si on en donne, c'est pas si pire, parce que nous, les chrétiens, on va en bénéficier. Mais si on en enlève aux musulmans, eh bien, la réaction, c'est « Pourquoi tu n'en enlèves à moi, puis tu n'en enlèves pas à lui? » C'est une réaction humaine. L'apôtre Pierre a eu cette même réaction quand Jésus parle à son cœur, juste avant que Jésus s'en aille, retourne vers le Père, quelque temps avant, donc entre la résurrection et l'ascension. On voit que Jésus s'entretient avec Pierre. Puis Pierre dit, « Oui, oui, mais lui, là-bas, là, lui, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Toi, tu me dis toutes ces choses-là à mon sujet. » Qu'est-ce que Jésus lui répond? « Que t'importe, toi, suis-moi. » La tendance humaine, c'est de dire, ben, hey, si ça me fait mal à moi, pourquoi ça ferait pas mal à l'autre? Ce qui arrive dans notre société civile, si on enlève des droits aux musulmans, on va en enlever aux chrétiens. La preuve, on a inversé la situation. Les musulmans ont fait de la publicité sur les autobus, ça l'a passé. Mais quand les chrétiens ont voulu faire de la publicité dans les salles de cinéma, ça ne passait pas. Alors, qu'est-ce que les chrétiens ont dit? Ouais, ben là, si ça ne passe pas pour les musulmans, ben pourquoi ça ne passe pas pour nous? C'est tout à fait légitime. C'est de bonne guerre. Mais ce que je suis en train de soulever, ce n'est pas le fait que les chrétiens se sont levés pour dénoncer que ça n'a pas passé dans les cinémas. C'est dans leur droit. Ce que je suis en train de dire, mesdames et messieurs, que sur la place publique, il faut faire attention de ne pas frapper sur les autres parce que ça nous rebondit dessus. C'est ça que je veux attirer votre attention. Alors, pour moi, c'est pour ça que je dis liberté à tous. Liberté à tous. Que tous les groupes religieux aient la liberté de s'exprimer. Et c'est également pour ça que vendredi, je vais parler d'un thème spécifique dans le cadre de cette nouvelle série qui s'intitule « Aux citoyens de bonne foi ». Je vais parler vendredi du patriotisme communautarien. Je vais vous expliquer c'est quoi. Mais rapidement, le patriotisme communautarien, c'est cette vision du monde qui veut que chaque communauté ait sa liberté. Mais qui va avoir préséance sur qui? Eh bien, c'est notre patrimoine qui va le dicter. Notre patrimoine a des sources, a des racines. Jacques Cartier est venu planter des croix. On est venu, par les Huguenots, instaurer la liberté de religion. On a établi des églises, des paroisses. On a instauré la fête de Noël, Pâques, l'action de grâce. Eh bien, on a des repères historiques et patrimoniaux qui sont là pour nous guider. Et ce qui est dommage, c'est qu'en tant que pays, on est en train de se distancer de ces repères. Et c'est pour ça qu'on doit avoir des repères parce qu'ils nous rappellent à l'ordre. Ces repères nous invitent à réfléchir sur nos origines, à réfléchir sur le sens de ces symboles-là. Si on les enlève, on n'a plus ces repères. Enlevez les étoiles du ciel, mesdames et messieurs, et vous allez voir un bon nombre de marins qui vont vivre dans la confusion. Et c'est pourquoi, en voulant enlever ces repères et en se distançant de ces repères, qu'est-ce qui arrive dans le monde de la santé? On veut faire mourir ceux qui souhaitent mourir lorsqu'ils souffrent en fin de vie. La presse nous fait état qu'au travers ce débat qui joue dur à Ottawa, eh bien, on voit que le gouvernement a assoupli certains aspects, parce que lundi, c'était tout le contraire, c'était la ligne dure, et mardi, ils ont acquiescé à quelques demandes de l'opposition. Voici ce que nous dit la presse. Après avoir bloqué tous les amendements proposés en comité lundi soir, les libéraux se sont montrés plus souples mardi, alors que s'est poursuivie l'étude détaillée du projet de loi fédéral sur l'aide médicale à mourir. Les élus de la formation qui forment une majorité autour de la table du Comité de la justice et des droits de la personne ont accepté d'inclure à C-14 une disposition visant à protéger la liberté de conscience des médecins et une autre écourtant le délai entre la demande et l'administration de l'aide à mourir. Et ça, c'est incroyable, mesdames et messieurs. Il va y avoir une disposition qui va protéger la liberté de conscience des médecins. Mais moi, ce que je veux savoir, mesdames et messieurs, c'est est-ce que les médecins vont être obligés de référer les patients qu'ils ne veulent pas traiter? En d'autres mots, si un patient dit au médecin, « Monsieur le médecin ou Madame la docteure, j'aimerais ça que vous me donniez la mort parce que je souffre et je veux en finir. Et si le médecin dit, moi, dans ma conscience, je ne peux pas faire ça. » Est-ce que la loi va aller jusqu'à dire, si le médecin, dans sa conscience, ne peut pas le faire et ne doit pas le faire, puisque sa conscience lui dicte de ne pas le faire, est-ce qu'il va être obligé de référer le patient ou la patiente à un collègue? Ça, c'est la question qui demeure sans réponse pour l'instant. Certainement qu'elle va venir. Et donc, c'est à suivre. Mais savez-vous ce qui est le plus particulier là-dedans? C'est que le gouvernement au pouvoir, le gouvernement libéral fédéral, du bout des lèvres, va protéger la liberté de conscience des médecins, mais d'un autre côté, va imposer à ses ministres de voter en faveur de cette loi. Les autres députés qui ne sont pas ministres vont pouvoir voter librement. Mais qu'est-ce que ça lance comme signal? Ça veut dire que s'il y a des gens qui aspirent à devenir ministres, mais qui ne le sont pas encore aujourd'hui, qui attendent qu'un poste s'ouvre, bien ils vont se dire « Je suis mieux de voter comme les ministres, parce que si je veux faire partie de la gang des ministres, il faut que je sois comme eux. Donc, je ne vais pas voter en fonction de ma conscience, je vais voter en fonction de mon ambition. » Et c'est là qu'est le danger. Si M. Trudeau avait été juste et transparent, il aurait laissé le vote libre à tous les députés, qu'ils soient ministres ou non. Et ça, je déplore ça, mesdames et messieurs. Il est certain qu'il va y avoir un dénouement d'ici le 6 juin, parce que c'est le délai que la Cour suprême donnait au gouvernement. Le problème, c'est qu'une fois que le projet de loi va être voté en troisième lecture, eh bien, il va falloir qu'il passe par les sénateurs. Et ce qu'on a appris par la presse, c'est que plusieurs sénateurs sont réfractaires à ce projet de loi. Mais ce que j'aime dans tout ça, mesdames et messieurs, savez-vous c'est quoi? C'est le franc-parler de Mathieu Bock-Côté. Il a écrit un article tellement clair, aussi clair qu'un Québécois qui parle clair quand c'est le temps d'être clair. Suis-je clair? Cet article s'intitule « Faut-il suicider les vieux? » Et cet article a été publié sur la plateforme du Journal de Montréal. Voici ce qu'il nous dit. « L'unanimité est généralement un mensonge forcé. » Déjà en partant, cette phrase-là, c'est une phrase d'impact. Même si on dit qu'au Québec, le projet de loi sur l'aide médicale à mourir fait l'unanimité, eh bien, lui, ce qu'il va dire, c'est que l'unanimité est généralement un mensonge forcé. C'est pas vrai que ça fait l'unanimité. C'est qu'on a fait taire ceux qu'on ne veut pas entendre. Il va dire également, il n'est pas normal qu'une société soit toujours consensuelle. L'unanimité est généralement un mensonge forcé. Mieux vaut avouer franchement ce qui nous divise que feindre un consensus de façade. Oh, ça, c'est incroyable, mesdames et messieurs. Mieux vaut avouer franchement ce qui nous divise que feindre un consensus de façade. Ça peut pas être plus conforme à la vérité puis à la transparence. Il va dire également, « Alors, la question est de nouveau posée. Est-ce que le suicide assisté est vraiment un droit fondamental? » Il va poser d'autres questions. En voici une autre. Est-ce que notre système de santé doit le rendre concret et aider ceux qui veulent en finir avec la vie lorsqu'ils la jugent devenue insoutenable? Nous avons toutefois l'originalité de banaliser le suicide, d'en faire non plus un acte exceptionnel, mais un droit assuré par l'État-providence. Écoutez, mesdames et messieurs, Mathieu Bock-Côté est en train de dire qu'on est en train de banaliser le suicide. Et ça, c'est vrai. Parce que si on rend légal le suicide assisté, c'est que la personne se donne la mort, on a tout branché, et ce n'est pas le médecin qui pèse sur le bouton pour qu'il puisse mourir, c'est la personne, mais tout est installé de manière propre par du personnel médical pour s'assurer qu'il meurt dans la dignité. Mais ce qui se passe, mesdames et messieurs, là, c'est qu'on est en train de changer nos valeurs. Et ce qu'il va rajouter, c'est que Houellebecq imaginait alors qu'on assistera de plus en plus à des suicides par lassitude. La vie, à un certain stade, devient ennuyante. On compte nos jours et on se dit pourquoi ne pas en finir avant d'en venir à uriner involontairement dans sa couche. Si nous en arrivons là, l'euthanasie aura beau être maquillée en droit de mourir dans la dignité, elle révélera ce qui est peut-être son vrai visage, une forme de barbarie déguisée en humanisme médical. J'aime le franc-parler de Mathieu Bock-Côté. J'aime qu'il dise les choses telles qu'elles sont. J'aime ça. Parce que savez-vous quoi? Il dit dans cet article-là quelque chose de fracassant que personne, ou presque personne, ont osé dire. Savez-vous c'est quoi? Il dit ceci. Est-ce que tuer un malade qui le demande doit vraiment être considéré comme un acte médical, car telle est l'euthanasie, si on parle honnêtement. Ouf! est-ce que tuer un malade qui le demande doit vraiment être considéré comme un acte médical? Je suis tellement content qu'un des acteurs les plus influents du monde médiatique au niveau de la pensée, de la réflexion, se soit prononcé de telle manière. Je suis content parce qu'il dit les mots justes, les mots qui doivent être dits. L'aide médicale à mourir, c'est de tuer une personne vulnérable. Mais on ne s'arrêtera pas là-dessus. On va finir par les bonnes nouvelles du jour, mesdames et messieurs. Fin de la grève chez Ciment Lafarge à Saint-Constant. Les métallos réussissent à préserver le régime de retraite. Mais félicitations, je suis content qu'il y a pu y avoir une entente. Mesdames et messieurs, lorsqu'il y a une grève, c'est jamais amusant. Parce que lorsqu'il y a une grève, les employés ne reçoivent pas de salaire. Et pendant ce temps-là, l'usine ne produit pas. Donc, les propriétaires ou les actionnaires ne font pas de profit. Et maintenant que tout est revenu dans l'ordre, eh bien, félicitations. Les employés retournent au travail, ils vont recevoir un salaire. Et en plus, le régime de retraite est préservé. Bravo. Bravo, messieurs et mesdames. Mouvement de prospérité dans les Hautes-Laurentides, eh bien, c'est une campagne de mobilisation qui a été mise sur pied par le Conseil du patronat du Québec, justement pour susciter, développer l'entrepreneurship, pour susciter des emplois, pour amener un vent de prospérité dans les Hautes-Laurentides. Eh bien, félicitations pour cette initiative. On souhaite que ça puisse générer plus d'emplois, une meilleure dynamique entrepreneuriale. Eh bien, félicitations, on ne peut que louer des gestes comme ça. Et en terminant, Rio Tinto et Inspire présentent leur programme de bourse de 2 millions de dollars pour les étudiants autochtones au Canada. Bien, félicitations à Rio Tinto et à Inspire pour cette initiative. Sur ce, chers auditeurs, puisque c'est déjà le temps de clore cette émission, eh bien, je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'horizon. Au revoir!